Le mardi 14 novembre 1843, je descendais du train à 11h à l'embarcadère d'Orléans. C'était une aubaine et une première pour moi. La ligne de chemin de fer Paris-Orléans avait été inaugurée un peu plus tôt dans l'année, en mai. Je crois que je resterai toujours étonné par la puissance de ces engins, les locomotives françaises 1 à 1 de Stirling et Huber. Vaporisant 848 litres d'eau par heure et brûlant 14 kg de charbon par kilomètre, elles sont capables de tracter plus de 200 voyageurs, des chevaux et même des caisses de diligence. Leur habitacle est séparé de leur châssis à Paris, installé et transporté sur les plateformes du train, puis de nouveau appairé avec un châssis de remplacement à son arrivée à Orléans. J'avais pu me procurer une place en deuxième classe pour 9 francs et 50 centimes. La troisième classe était moins onéreuse, mais la perspective d'effectuer ce périple dans un wagon sans toit ne m'enchantait guère. Surtout durant le mois de novembre. C'était un soulagement que de pouvoir faire un tel voyage en 4 heures environ quand il en fallait 10 en diligence lors de mes précédents voyages. Il ne me restait plus d'ailleurs qu'à trouver une malle postale ou une diligence pour effectuer la dernière centaine de kilomètres qui me séparait d'Enrichemont, ma destination. Je demandai conseil à quelques personnes et un homme m'indiqua qu'un petit convoi postal partirait en début d'après-midi vers Enrichemont. Je pourrais profiter de son véhicule pour quelques francs supplémentaires. C'était encore une bien mystérieuse affaire que me soumettait M. Hippolyte Daranguier de Quincereau, ingénieur en chef du canal de Berry. Il avait déjà fait appel à mes services en 1839 pour des faits inexpliqués dans les environs de Meun-sur-Yèvre. Mais cette fois-ci, il m'invitait à venir le rejoindre à Enrichemont dans les plus brefs délais, pour une affaire familiale concernant sa fille de 11 ans, Marie. Je n'en savais guère plus sur le moment. En temps normal, je ne me serais pas déplacé pour une simple affaire familiale, mais j'avais apprécié travailler avec l'ingénieur. À mon arrivée au lieu de rendez-vous sur la place centrale, je trouvais le secrétaire personnel de mon employeur.
Soyez le bienvenu, monsieur Nabel. Monsieur de Quincereau a été retenu dans une séance du conseil général, mais il m'a envoyé à votre rencontre avec madame de Quincereau, son épouse. Monsieur m'a bien demandé d'insister auprès de vous sur la discrétion absolue qui est requise pour cette affaire.
Cela va de soi, vous avez ma parole. Nous rejoignîmes madame de Quincereau dans le salon de l'hôtel de la place centrale.
Je suis ravie de faire votre connaissance, monsieur Nabel. Auguste, mon époux, n'a cessé de me faire éloge de votre savoir-faire d'enquêteur depuis ces événements de Meun-sur-Yèvre. Voyez-vous, nous faisons de nouveau appel à vous pour une affaire d'un tout autre ordre. Une affaire familiale assez sensible concernant notre fille Marie.
Je serai d'une discrétion absolue, soyez sans crainte.
Notre petite Marie, qui a 11 ans cette année, est atteinte d'un mal assez incertain. Elle semble avoir des pertes de mémoire et voit des choses, pour ainsi dire. Les avis des différents spécialistes divergent, mais ce qui est certain, c'est que nous en savons assez peu sur les symptômes qu'elle présente. L'école qu'elle fréquente est tenue par les sœurs qui, et c'est bien malheureux, ont tendance à interpréter ces symptômes comme le signe d'une possession par une entité malveillante. Mon mari et moi-même sommes assez peu enclins à croire ce genre de choses et aimerions explorer une explication plus rationnelle et médicale.
Je comprends tout à fait.
C'est pourquoi nous faisons appel à vous, car nous souhaitons avoir un regard impartial et un rapport détaillé sur les allées et venues de notre fille Marie.
Les allées et venues ?
Oui. Voici 2 mois que, sans que les religieuses aient cru bon de nous en avertir avant que la police ne s'en mêle, notre fille quitte son internat de temps à autre et déambule dans les rues d'Enrichemont de manière erratique.
Comme une forme de somnambulisme ?
Pas tout à fait. Il semble qu'elle est consciente, mais tient des propos incohérents. Et elle ne garde aucun souvenir de ses sorties. Nous avons insisté pour sa sécurité, qu'elle soit mieux surveillée. Mais les religieuses ont monté cette affaire en épingle et ont commencé à prendre peur. Elles refusent de s'approcher d'elle dans cet état. Or, nous avons besoin d'un rapport détaillé des crises passées à fournir aux spécialistes afin de trouver un remède. Et Marie refuse de revenir à la maison familiale, disant qu'elle se sent bien dans son école pour le moment. Pour ma part, je resterai à Enrichemont le temps qu'il faudra pour trouver une solution.
En somme, ma mission était assez délicate. Il me fallait enquêter sans le laisser paraître auprès des religieuses et des habitants qui avaient croisé la route de la jeune Marie. Je me faisais donc passer pour un précepteur privé, chargé par les parents de Marie d'aider la jeune fille dans sa scolarité avec quelques cours supplémentaires. D'un air détaché, j'essayais de faire révéler aux personnes que j'interrogeais ce qu'ils auraient pu remarquer dans son attitude ou s'ils avaient idée du lieu vers lequel elle se dirigeait. Le besoin de rester discret empêchait néanmoins de pouvoir être très précis dans mon rapport. Je ne pouvais pas assaillir de questions mes interlocuteurs sans attirer la suspicion. J'appris néanmoins qu'elle avait probablement fait au moins 3 escapades en début de nuit dont elle était revenue quelques heures plus tard sans encombre, mais sans aucun souvenir d'être allée dehors. J'appris aussi qu'une 4e fois, elle avait été recueillie par la police au petit matin et rapatriée dans son internat, ce qui avait déclenché toute cette affaire. Je me rendais auprès de Marie quelques fois pour l'interroger personnellement sur ses symptômes. Je dois bien reconnaître que je la trouvais très fatiguée, très affaiblie par rapport aux autres jeunes filles de son âge. Quant à elle, les religieuses semblaient authentiquement inquiètes pour moi.
Prenez garde à ne pas lui tourner le dos, monsieur Anglard. La petite peut être très dangereuse.
Henri Anglard était mon nom d'emprunt pour cette enquête. Oh, ma sœur, n'exagérez-vous pas quelque peu? Cette jeune fille me semble au contraire plutôt douce, voire apathique.
Il faut se méfier de l'eau qui dort. Une nuit, alors que je faisais ma ronde, je l'ai retrouvée, cachée derrière une porte du couloir, avec le lourd chandelier du réfectoire dans la main, complètement éteint. Elle se tenait dans le noir complet, totalement immobile, avec les yeux fixes, rivés vers le sol, et ne répondant à aucun de mes ordres. La mère supérieure a dû la gifler pour qu'elle recouvre ses esprits. C'était une apparition abominable. Elle aurait pu tuer quelqu'un avec ce chandelier si elle avait tout à coup bel et bien perdu l'esprit. Vous vous rendez compte ?
Voilà qui expliquait la peur qu'éprouvaient les religieuses pour la jeune fille. Elles avaient même décidé de patrouiller 2 par 2 dans les couloirs de l'internat à la tombée de la nuit. Quand je fis part de mes observations à Madame de Quinsereau, au petit matin du 9e jour, celle-ci m'indiqua catastrophée que la situation avait encore évolué. Les religieuses avaient posé un ultimatum et réclamaient la venue d'un exorciste. Face à la réaction outrée de Madame de Quinsereau, la mère supérieure avait tempéré les choses, mais imposait pour sa part de faire examiner la petite par un magnétiseur. Madame de Quinsereau faisait les 100 pas.
Mon époux et moi-même sommes absolument contre ces pratiques. Ce procédé ne repose sur aucun fait scientifique. Auguste, mon mari, s'y est intéressé et a lu le rapport de l'expérience de 1784 de Lavoisier et Franklin. Tout n'y est que croyance et imagination, superstition. Pire, cela pourrait accentuer encore les symptômes de notre fille. Il est hors de question qu'elle participe à ce charlatanisme.
Je comprends, madame. M'autorisez-vous à tenter de suivre votre fille lors de l'une de ses prochaines crises afin de voir ce qu'elle cherche à faire? Je la garderai sous surveillance pour éviter tout accident.
Mais qui sait quand cela se...
Madame, je viens d'apprendre que Marie a disparu durant la nuit et n'est pas rentrée ce matin.
Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Où sont les surveillantes? Que s'est-il passé?
Je me suis empressé de demander des comptes. Les sœurs ont indiqué la venue d'un monsieur après une perte de connaissance de Marie au moment du souper hier. Il l'a examinée et a pratiqué je ne sais quel rite avec une barre de fer. Il a ensuite ordonné aux sœurs de laisser dormir votre fille sans la déranger. C'est peu de temps après qu'elle a disparu.
Alors elles ont fait voir ma fille par ce charlatan, sans mon autorisation et en mon absence.
Je n'attendais pas plus. Il fallait que j'aide à retrouver Marie. Je savais qu'à chacune de ces disparitions, la jeune fille allait vers l'est du village. Elle avait d'ailleurs été retrouvée sur la place centrale. Mais cette fois-ci, personne ne l'avait vue. Il faut dire que le temps s'était terriblement gâté en cette fin novembre. Une nuit glaciale aux températures négatives. De plus, il avait plu durant toute la soirée. Je craignais le pire si Marie, en habit de nuit, avait été trempée et avait déambulé toute la nuit. Alors que je continuais de chercher, anxieux, j'arrivais près de l'église Saint-Laurent. Je la savais condamnée. Bâtie au XVIIe siècle, elle était en état de délabrement avancé. Elle allait être démolie et reconstruite, comme dans tant d'autres communes. Alors que j'en faisais le tour pour l'inspecter, je faillis heurter de plein fouet un homme, qui semblait aussi pressé que moi. Mais lui m'évita en semblant glisser au sol.
Pardonnez-moi, cher monsieur Nabel, je ne vous avais pas vu.
C'est moi. Je me hâte pour retrouver une jeune fille égarée. Vous n'auriez pas rencontré une adolescente en habit de nuit ? L'homme me regarda longuement. Il était brun, très pâle, habillé d'un grand manteau noir. Il avait une attitude assez douce, mais quelque chose me dérangeait, comme une impression étrange. C'est alors que je m'en rendis compte. Mais comment connaissez-vous mon nom ?
Oh, j'ai cru entendre ce nom lors de vos discussions. Je n'ai pas croisé de jeune fille, mais j'ai comme une sensation fugace qu'elle est proche de nous. Peut-être dans l'église ?
L'église est fermée et barricadée. Connaissez-vous une autre entrée ?
Alors, il me semble qu'il y a un accès derrière la palissade qu'utilisent parfois les enfants et les chats pour se faufiler à l'intérieur. Je ne peux vous accompagner cependant. Cette église ne me sied guère.
Sans y réfléchir plus avant, je quittais cet homme étrange. J'étais obnubilé par le fait de retrouver Marie et je ne me rendrai compte que plus tard de l'étrangeté de son propos. Je trouvai la palissade et en cassai un barreau pour me faufiler. J'ouvris une vieille porte en bois qui ne me semblait plus tenir assez gonds que par habitude. L'église était très sombre. Je tentais de m'éclairer avec la petite flamme de mon briquet, mais il était humide et refusait de s'allumer. En faisant le tour de la nef, je ne vis aucune silhouette, pas âme qui vive. Seule une chauve-souris s'envola quand je trébuchais sur un banc renversé. Dans cette atmosphère glaciale et oppressante, je repensais à mon petit commis du canal et me faisais la réflexion que sa chaude aragonite m'aurait été bien utile à moi aussi pour retrouver mon chemin dans cette obscurité. Alors que j'arrivais au petit transept, je remarquai qu'une grille avait été forcée devant un escalier bas. En m'approchant, je vis des traces de pas dans la poussière de la première marche. Je criai à l'aveugle. « Police ! Si quelqu'un est dans la crypte, il ferait mieux de s'annoncer. Je n'aime pas bien les plaisantins et j'ai le poing véloce. Vous serez prévenus. » Devant ce bluff inopérant, je n'obtins aucune réponse. Je me décidai à descendre dans la crypte. C'était hasardeux. L'édifice menaçait de s'effondrer et l'église avait été condamnée pour cette raison avant sa démolition et reconstruction d'ici peu. Je descendis la douzaine de marches en m'appuyant aux parois. Les marches étaient glissantes et humides. Arrivé dans la crypte, il faisait un noir opaque, comme de l'encre figée dans l'air. Je décidai d'utiliser la pierre à feu de mon briquet pour m'orienter. S'il ne produisait pas de flammes, il faisait des étincelles et me permettait d'entrevoir où j'allais mettre les pieds. À la première étincelle, j'entrevis un lourd tombeau de pierre sur ma gauche. À la seconde, je vis un objet brillant au sol devant moi. Je m'approchai et le tâtai. C'était un chandelier, avec des bougies qui avaient été allumées récemment. À la troisième étincelle, je vis un corps étendu au sol. Une silhouette en habit de nuit, pieds nus, étendue sur le ventre comme si elle était tombée. Je me précipitai vers elle. Vérifiait sa respiration et son pouls. Elle était bien vivante, mais frigorifiée. Je l'enveloppais dans mon long manteau et la portais dans mes bras. Je retrouvais tant bien que mal la sortie de la crypte et de l'église. C'était bien Marie. Elle avait reçu un coup violent à la tête et avait perdu connaissance, probablement après avoir trébuché dans la crypte. L'hospice prit soin d'elle, et malgré l'hypothermie, elle parvint à reprendre des forces les jours suivants. Nous avions évité le pire. Les médecins qui l'examinèrent nous affirmèrent qu'elle n'aurait pas survécu à quelques heures de plus dans le froid. Quant au mal mystérieux dont souffrait Marie, certains spécialistes posèrent le diagnostic d'un manque aigu de sommeil, provoqué par des insomnies. Ils affirmaient que cela pouvait entraîner des mélanges entre éveil et songe, des hallucinations, des phases actives où le patient ne se souvient pas de ce qu'il a fait quelques heures plus tôt.